Merci pour cette forte affluence à cette très prometteuse table ronde qui réunit autour de la malheureuse femme que je suis, cinq piliers en devenir ou non de la fantasy française mâle et blanche. Et t'as vu, hein, ça commence. Non, mais ça ne m'avait pas frappé, mais voilà, régulièrement, après, quand je me retrouve comme ça, je le vois tout d'un coup. Alors, je vous présente d'abord Hugo Bellagamba, qui est spécialiste d'histoire du droit à l'Université de Nice et par ailleurs romancier et novelliste, plutôt côté SF, ce qui fait qu'ici on l'a pas vu beaucoup, alors qu'il est, il fait partie de l'équipe de direction du festival Les Utopiales à Nantes. Et parmi sa production de fiction, on évoquera surtout aujourd'hui Tancred, une uchronie, qui a été publiée donc au Mouton électrique en 2009 et en folio SF. Bon, je vais prendre par ordre alphabétique, hein, donc Régis Godin est l'auteur donc bien connu aux Imaginales depuis ces dernières années du cycle en 7 volumes, hein, L'Heptalogie, le sang des 7 rois, et donc il est en train de finir le 6e. 5 volumes sont donc parus pour l'instant chez La Talente depuis 2013. Pierre Grimbert, hein, tout là-bas, alors qui le malheureux a une quasi-extinction de voix, donc va faire de son mieux pour, pour nous parler ou mimer voilà, ce qu'il pourra malgré tout. Voilà, c'est un auteur de fantasy française assez incontournable, hein, depuis La Malrune et puis surtout le fameux cycle de J. Et puis c'est un éditeur également avec sa maison qui s'appelle Octobre, hein, et qui est sise dans le Nord-Pas-de-Calais, où j'enseigne moi-même. Et après J, dont le dernier cycle s'est achevé, donc c'est Les Gardiens de J en 2012, il a commencé une nouvelle série qui s'appelle Gonlore et qui compte déjà 4 tomes, bientôt 5, donc depuis Les Arpenteurs en 2005. Et vous avez la couverture du dernier juste ici, que j'ai peur de mal prononcer, donc je le... Nabil Wally, lui, est l'auteur d'un premier roman cette année chez Mnemos, montre-le, La Voix de l'Empereur 1, Le Corbeau et la Torche, donc c'est un très bel ouvrage, et puis qui s'inscrit donc dans une veine classique, hein, de fantaisie épique, qui nous conte donc des intrigues pour le pouvoir au cœur de l'empire de Ferva, hein, autour du destin en particulier de 3 jeunes gens. Et puis enfin donc Pierre Feuvel, avec son dernier roman, donc son dernier roman qui s'appelle quand même Au Royaume L'Héritier, donc qui est un peu au cœur du sujet de cette table ronde, hein, qui, rappelons-le, s'appelle Roi et Royaume, Héritier et Rebelle. Donc je pense qu'elle a été faite avec... voilà, c'est ça. C'est le sujet, c'est lui. Et c'est le second volume donc de ce nouveau grand cycle qui paraît chez Bragelonne, après donc la trilogie de Willstatt, après Les Lames du Cardinal, et puis Le Paris des Merveilles, hein, que je connaissais sous le nom d'Embrumage jusqu'ici, et qui vient d'être très joliment réédité. On ne l'a pas ici, hein, mais je vous invite à aller regarder ces nouvelles couvertures qui sont très réussies. Également 3 tomes, hein, pour Le Pays des Merveilles. Bon, ben on y va. Alors, on a donc 4 auteurs de fantasy, disons, épique, de fantasy avec cartes, même si ce n'est pas le cas pour Gonlore. Mais J, ça l'était, hein, Gonlore prend un peu ses distances avec ça. Et puis, avec Hugo Bellagamba, voilà, quelque chose d'assez différent, une uchronie historique, hein, s'appuyant beaucoup plus sur l'histoire médiévale, hein, en l'occurrence celle de la première croisade, fin 11e, début 12e, hein, donc une perspective un petit peu différente. Je vais commencer par une question générale qui va nous permettre de cerner notre sujet et puis de faire un peu mieux connaissance avec vos différents ouvrages. Je vais donc poser à chacun de vous, est-ce que vous pouvez nous présenter vos royaumes imaginaires, quelle est la structure du pouvoir en place au début, et puis comment vos personnages sont-ils partis pour la faire évoluer, bon, dans la mesure où il s'agit, là encore dans la quasi-totalité des cas, de cycles en cours. Et comme ça, vous pourrez dire ce que vous voulez en dire, et comme ça, je verrai où est le curseur spoiler pour chacun d'entre vous, puisque je n'ai pas forcément eu le temps d'en parler, par exemple avec Pierre Pevel. Quel personnage on peut mentionner ou pas? On va commencer avec vous, Pierre Pevel.
La série est intitulée Au Royaume. C'est le nom du principal royaume, le royaume le plus puissant ou le plus glorieux, le plus riche d'histoire dans l'univers que j'ai imaginé pour cette série. Il se trouve qu'au début du roman, le Haut Royaume a encore à sa tête un roi qui est plus que mourant, qui est quasiment réduit à l'état de mort-vivant, le corps pourrissant et l'esprit qui n'est pas toujours bien clair. Et on rappelle aux affaires un chevalier qui a été condamné pour trahison et jeté en prison. Et on le rappelle aux affaires à cause d'une prophétie qui semble désigner comme étant le sauveur du monde ou celui qui va sauver le royaume d'un péril à venir. Comme visiblement il ne peut pas faire ça du fond de sa prison, on l'en sort. On espère qu'il va être gentil et qu'il va reprendre là où il s'était plus ou moins arrêté, sauf que mon héros, Lorne, a d'autres plans, et en particulier lui, c'est de se venger, de profiter des outils qu'on va mettre à sa disposition, soi-disant pour sauver le monde, lui pour se venger, trouver qu'il a trahi et qu'il a mis là où il s'est retrouvé. Voilà.
Ah oui, donc on est vraiment tout début du premier tome, là. Hein,
et il faut acheter des livres, sinon.
Ok. Pierre? Oui, avec le micro tout prêt, peut-être.
Je m'excuse d'avance. Bon. Je vais être bref. Bon, par rapport au thème, ce que je pourrais avancer, je vais parler peut-être excusez-moi, de Gondolin, où j'ai mis en place plusieurs royaumes, évidemment, que j'appelle simplement les nations d'une manière générale, qui sont également très nombreuses. Mais parmi ces nations, existe aussi une confrérie. C'est la confrérie des Arpenteurs, dont je développe l'histoire. Et moi, c'est à travers les personnages de cette confrérie que je vais mettre en place tous ces jeux de pouvoir, de trahison, etc. Donc, par rapport au thème des héritiers, c'est une confrérie qui existe depuis 1000 ans, qui a toujours cohabité avec les royaumes en place et avec des frictions. Les royaumes savent qu'ils ne peuvent pas se passer de la confrérie. La confrérie a parfois plus de pouvoir que les rois en place. Bon, voilà, c'est ce genre de choses que je vais décrire dans Gondolin en ce qui concerne le thème. Voilà.
Oui, ça marche, c'est très bien. Donc, dans le sens de ces trois, c'est un monde médiéval assez classique, en ce sens qu'il y a des rois dans différents royaumes, un clergé, un tiers-état. Donc, on est dans une configuration assez médiévale, traditionnelle. Sur le plan des forces en présence, il y a aussi un certain nombre de sociétés secrètes qui se relèvent soit du banditisme, du brigandage, qui ont passé donc des contrats en quelque sorte, au fil de l'histoire, avec le pouvoir en place, hein, mais dont on sait qu'il y a toujours une certaine forme d'instabilité. On ne connaît que la face, il n'y a qu'une face visible donc des compagnons du verrou, et pour les autres, on sait qu'ils sont dans l'ombre et toujours susceptibles d'agir. Donc il y a une espèce d'équilibre qui s'instaure entre finalement les compagnons du verrou et le pouvoir en place. Et puis il y a effectivement donc une autre branche, hein, si vous voulez, qui s'appelle les rebelles. Et les rebelles, en fin de compte, on n'en a pas entendu parler depuis très longtemps, ils sont considérablement affaiblis et ils n'interviennent finalement que pour faire quelques coups d'éclat quelques fois par siècle pour montrer qu'ils existent encore dans un dans un anonymat total. On ne sait pas où ils sont, combien ils sont, quelle est encore leur capacité de nuisance. Et donc les forces en présence au niveau de l'échiquier sont celles-là, en fin de compte des sociétés secrètes, des instances encore plus obscures qui sont les gardiens et qui ont l'air de contrôler un petit peu la question du pouvoir et qui restent dans l'ombre des rois. Donc à la fois une structure apparente qui est extrêmement convenue, et en même temps une multiplicité donc de groupes de pouvoir, d'influence, de groupes d'influence qui peuvent infléchir sur les décisions, infléchir sur les questions de stabilité. Autrement dit, la configuration dans le sens de ces trois, c'est vraiment quelque chose, une organisation sociopolitique qui est potentiellement très instable dans une apparence de grande stabilité. Voilà.
Moi, c'est à peu près la même chose. Non, en fait, l'Empire de Fervaz est composé de six royaumes qui, à un moment donné, très tôt, ont décidé de se fédérer, en fait, sous la responsabilité d'un roi qui s'est imposé donc comme empereur. Et donc chacun de ces six royaumes, en fait, est situé dans une terre que j'appelle les terres du Nord, qui sont situées dans une sorte d'enclave, en fait, entre deux mers et deux chaînes de montagnes. Et c'est un peuple qui est venu de l'Est et qui a commencé à essayer de construire une nouvelle civilisation dans cet endroit-là, qu'il considérait comme une sorte de terre promise. Le seul souci, c'est que le roi en question est en fin de vie et que l'héritier ne fait pas du tout l'unanimité. Donc y a deux clans, en fait. Y a ceux qui vont essayer d'évincer l'héritier à venir en précipitant la mort du roi, de l'empereur, donc. Et il y a ceux qui vont, au contraire, essayer d'utiliser leurs compétences, leur intelligence, leur savoir, pour faire de cet héritier qui ne fait pas l'unanimité un roi, un empereur, sinon aussi imposant, aussi dominant, aussi régalien tout simplement que son père, du moins quelqu'un d'éclairé qui pourra réussir à conserver son trône et à continuer à faire évoluer les choses. Le risque, en fait, c'est que l'autre camp est largement dominé par le clergé qui tente d'asseoir sa domination sur le prince qui deviendra empereur. Et pour cela, en fait, le clergé envoie une sorte de précepteur, la voiture épiscopale, un précepteur, en fait, pour éduquer le prince pour qu'il... Pour qu'ils suivent un peu les questions de foi, ce genre de choses. Malheureusement, le précepteur en question, il a d'autres plans. Donc, voilà. Le reste, je vous laisse le découvrir. Hein.
Oui. Alors, moi, c'est un petit peu différent. Du coup, d'abord, ce n'est pas un cycle en cours, puisque c'est un ouvrage sans suite. Donc, Tancrède, en fait, c'est une uchronie sur la première croisade qui est assez simple dans le projet. Raconter la première croisade d'un autre point de vue et à la faveur d'un point de divergence dans l'histoire, c'est-à-dire au fond cette première croisade a des conséquences qui sont complètement différentes et du coup au lieu d'être suivie d'autres croisades, elle ouvre sur un monde complètement différent. C'était mettre en avant un personnage en particulier qui est Tancrède de Hauteville, l'un des chevaliers normands qui a vraiment participé à la première croisade. Donc l'idée de départ, c'était de rendre hommage à deux sources historiques, enfin une source intellectuelle et puis une source véritablement historique. Je me suis inspiré de la chronique anonyme de la première croisade, d'une part, qui raconte les faits et gestes des chevaliers ayant participé à la première croisade à partir de 1096, et puis les croisades vues par les Arabes de Amin Malouf, qui nous donnait justement un point de vue très différent sur ce Proche-Orient qui n'a rien de monolithique et qui est d'une complexité tout à fait désarmante dès le XIe siècle, avec des Turcs seldjoukides, avec des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des sectes et bien sûr les assassins. Et donc le projet de Tancrède était de raconter non pas l'histoire d'un royaume, car le seul royaume qu'il y a dans Tancrède, c'est le royaume de la conscience, c'est-à-dire celui que les chrétiens recherchent comme une sorte de rédemption au désordre et finalement à la peur qui règne en Occident par rapport à la féodalité qui monte. Et puis c'est beaucoup plus finalement un projet de réflexion sur les événements que nous connaissons tous aujourd'hui comme étant ceux de la première croisade. Alors à partir de là, il y a des personnages qui sont tous des personnages, pratiquement tous des personnages réels, et le roman va basculer petit à petit, il n'y a pas un moment de divergence particulière, bataille par bataille, événement par événement, va glisser, va dériver comme un navire poussé par le vent, va dériver vers un monde complètement imaginaire et complètement uchronique. Voilà, donc ça c'était le projet. Et voilà, je pense que ça suffit comme présentation pour l'instant.
Merci à tous. Est-ce que vos inspirations pour ces jeux de pouvoir et pour cette mise en place des structures politiques qui vont avec, est-ce que vos inspirations, vos références, elles sont principalement littéraires ? Puisqu'on voit tout le temps réapparaître ces six royaumes, ces sept royaumes. Voilà, il y a clairement une récurrence. Est-ce qu'elles sont, au contraire, principalement historiques ? Enfin, est-ce qu'il y a vous, des modèles historiques derrière ce que vous imaginez, des choses que vous voulez mettre en lumière qui viennent de là? Ou est-ce qu'elles sont entièrement au service de votre histoire, enfin de l'histoire que vous avez besoin de raconter, et que c'est ça qui explique la structure que vous avez choisie?
Comme j'étais le dernier, je reprends en premier, c'est ça? Alors j'aimerais, et je me tourne vers Nabil, j'aimerais qu'on fasse fi du déterminisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'y a pas qu'une façon de décrire des royaumes, même si pendant très longtemps, on est toujours sur le modèle de fantaisie, de type monarchie, royaume, etc. Il serait faux de croire que les auteurs que vous avez ici, et je m'y inclus, sont un peu dans des canevas, un peu clichés, un peu classiques. Finalement, parler de royaume et parler de roi, c'est à se donner une très grande liberté. Même la forme monarchique, on peut la voir de notre point de vue aujourd'hui de façon monolithique, c'est une monarchie, etc. Alors qu'en fait, il y avait énormément de variations possibles. La part de la religion pouvait être très différente, le poids des institutions, le poids de l'aristocratie. Les monarchies dépeintes par Régis ou Pierre n'ont pas forcément les mêmes éléments ou les mêmes éléments en puissance, en force. Par exemple, le rôle de l'aristocratie peut être très, très important. Moi, je m'intéresse beaucoup aux institutions, donc on voit aussi le rôle des parlements, etc. Donc souvent, c'est l'occasion de se servir de l'histoire avec une sorte d'un ensemble d'outils qu'on a à notre portée de main et où on peut tout réinventer. Dans Tancrède, évidemment, moi, je me suis plongé plutôt sur la féodalité, sur les rapports, les fameux liens vassaliques, les liens de fidélité, etc. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est peut-être que quelque chose dont on n'avait pas vraiment conscience lorsqu'on parle de la croisade, c'est que des deux côtés, que ce soit du côté du monde musulman ou du côté du monde chrétien, ces féodalités étaient extrêmement développées. Et qu'en réalité, les liens de fidélité, les rapports personnels, la puissance associée à la possession même de la terre étaient aussi très présents dans un monde féodal d'une grande complexité des deux côtés, aussi bien du côté musulman que du côté chrétien. Donc au fond, on fait de l'histoire ce qu'on veut dans la mesure où on est dans la fiction. On utilise les éléments que l'on veut asservir en quelque sorte à l'histoire que l'on va raconter. Et c'est ça l'essentiel, de raconter une belle histoire, une histoire captivante, je pense.
Nabil, pourquoi ces royaumes alors? Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en valeur en choisissant ce thème?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Hugo dans la mesure où... oui, déjà, il parle bien. le saligo. oui, en fait, par rapport à la question du déterminisme, c'est vrai que, comme il dit sur la fin, on a la chance, en fait, quand on crée un univers, de pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut. C'est ce qui nous rend dangereusement proche des chirurgiens, avec cette impression de toute puissance, de démiurge. Donc, faut faire attention, parce que voilà. Mais du coup, en fait, ça permet de servir, en fait, comme il disait, le propos de l'histoire. En fait, ce qu'on veut raconter, c'est pas tellement, en tout cas en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, ça sera mieux. C'est pas tellement, en fait, de décrire un univers, c'est pas tellement de décrire des royaumes qui fonctionnent de telle ou telle manière, mais c'est de placer des cadres, en fait, qui rendent cohérents ou vraisemblables les personnages et les comportements qu'on veut y faire progresser. Donc, on essaie de construire en quelque sorte une quiddité des personnages avant même qu'il existe. Et pour cela, en fait, on est obligé de créer un cadre qui va permettre, en gros, de justifier leur essence, de justifier leur comportement, alors même qu'on n'aura pas toute la complexité sociale, historique, philosophique, politique, morale qu'on a dans notre réalité. Donc c'est vrai, le but c'est de créer des univers cohérents qui nous permettent d'avoir des personnages cohérents. Et la question des six royaumes, c'est un découpage qui est simplement simple. C'est simple et c'est pratique. C'est pratique et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. À partir du moment où c'est pas, ça ne gêne pas, c'est pas redondant, ou que ça aide à la lecture ou ça aide à la création, je pense que le concept de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 royaumes qui permettent de représenter des peuples, des mentalités, des cultures différentes, ça restera riche, ça restera intéressant.
Moi c'est... 7, oui, presque 8. Oui. Alors, là, il y a plusieurs questions contenues en une seule. Il y a la question du cadre médiéval. Bien sûr que le cadre médiéval vient forcément de l'histoire. À partir du moment où on met des gens en armure, qu'on les met dans un décor de châteaux qui sont bâtis en pierre et qu'ils montent sur des chevaux pour partir au combat, effectivement, ça renvoie donc au monde médiéval que nous connaissons bien. Alors, le grand avantage, c'est que d'une part, moi, ça me fait rêver. C'est une période que je ne vivrai pas, heureusement, parce que, les anesthésies dentaires,
cette époque-là, bon, c'est ce que c'était et je n'ai pas de très bonnes dents. Donc, faut pas fantasmer un Moyen-Âge idéalisé non plus. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant parce que d'une part, ça nous envoie dans un imaginaire qui est déjà codifié, qu'on connaît un petit peu, et ça permet de rentrer avec le lecteur dans une espèce de consensus. On est au Moyen-Âge, nous avons tous des représentations de ce que c'est que le Moyen-Âge, et ça permet d'une manière assez facile de fixer un décor commun qui appartient à la culture commune. On pourrait imaginer d'autres livres dans lesquels on va fabriquer une structure politique complètement différente, mais dans lesquels il faudra faire un effort de didactique au début du livre pour nous aider à comprendre dans quel monde on arrive. Et le fait de se référer donc à l'histoire et à une connaissance commune de cette histoire permet de rentrer plus facilement dans le récit, puisqu'on a déjà une grande partie du décor qui est posée. Alors, les sept royaumes, c'est très rigolo parce qu'au début, je ne savais pas qu'il y en aurait sept. Je me suis seulement amusé à faire rentrer un maximum de poncifs possible dans un titre le plus court possible. Et donc, c'était un jeu, sept, il y a partout, c'est toujours sept épées, sept royaumes, sept chevaliers, etc. Ça m'amusait, donc c'était vraiment presque un gag, hein, un peu comme cette histoire du sang des sept rois a démarré sur une impulsion et de manière un petit peu inattendue. Bon. Donc, le sang pour l'héritage, j'avais toute une liste de mots qui arrivaient les uns derrière les autres, le sang, l'héritage, l'héritier, etc. Le 7, bon, on va le garder parce que c'est un nombre qui va être auréolé d'un certain nombre de mystères un peu kitsch. Et puis ensuite, les rois, bon, ça aurait pu être le royaume, ça aurait pu être à peu près n'importe quoi. Donc, comme c'était le sang de 7 rois, ensuite, ben, il y avait eu 7 royaumes parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, mais en réalité, il y a le côté pratique, hein, du monde médiéval qui donne des repères. À côté de ça, la construction que j'essayais de mettre en place dans le sang de 7 rois, c'était beaucoup plus l'idée d'une apparence de solidité et de tensions sous-jacentes, hein, qui pouvaient à tout moment remettre en cause ces éléments-là. En réalité, il y a très peu de temps que je sais qui sont les sept rois. Il y a deux ou trois mois que j'ai découvert à la suite d'une promenade dans les bois avec mon épouse et on a terminé, on a rangé les baladeurs, on courait et je dis « je sais qui sont les sept rois ». Et voilà. Et donc, autrement dit, c'est un monde de fantaisie dans lequel, à la fois, on pose des repères communs dans le domaine médiéval, et en même temps, dans lequel, du fait que ce n'est pas le vrai Moyen-Âge, par exemple, ça c'est censé se passer au début du 9e siècle, mais les armements, l'architecture, le système féodal n'est pas celui du 9e siècle chez nous. Ça correspondrait beaucoup plus au 12e, 13e siècle, par exemple, donc du Moyen-Âge occidental. Autrement dit, on est à la fois avec l'appui de l'histoire, et en même temps, on peut se permettre dans la fantasy d'en faire exactement ce qu'on veut. C'est juste établir un consensus avec le lecteur qui permet de gagner beaucoup de temps et de nous plonger dans un imaginaire commun et qui m'intéressait beaucoup.
J'ai un petit peu oublié la question, en fait.
Est-ce que la structure politique du haut royaume et des différents royaumes qu'il chapeaute, c'est un échiquier à la Game of Thrones? C'est quelque chose qui permet de déplacer des pièces, des personnages? Ou est-ce que derrière, il y a un modèle politique, un modèle historique que tu avais envie de revisiter avec cette construction-là? Est-ce que c'est littéraire ou personnel ou historique?
Moi, ce que j'avais dans ma ligne de mire, c'est un référent qui est à la fois littéraire et historique, puisque c'est une œuvre et c'est Les Rois Maudits. Donc, je me renvoyais à la fois à une tradition romanesque et à un type de récit historique, épique, qui, à la différence de, en ce qui me concerne, à la différence de Drouillon, je m'inspirais, moi, d'une époque qui n'a pas existé et que je me contente d'inventer. Mais sinon, la démarche, finalement, je la voulais semblable. L'avantage des royaumes, c'est qu'à leur tête, ils ont des rois. Donc, on peut avoir un roi maudit ou des reines. On peut avoir une reine maudite. Et un roi maudit, c'est un peu plus sexy qu'un président de la République maudit ou un président du Conseil maudit. C'est là, il y a quelque chose qui relève du fantasme. Oui, absolument. Oui. Mais ceci dit, le roi maudit qui, pourrissant sur son trône, ne veut pas renoncer au pouvoir, bah, il est là, on ne peut pas y faire grand-chose. Quand c'est un président de la République, il peut quand même être éjecté aux prochaines élections. Il y a quand même une dimension tragique un peu inférieure, je trouve. Blague à part, oui, c'est à ça que je renvoie, c'est à une dimension tragique dans presque tous les sens du terme. Si vous prenez la tragédie classique, ça raconte des histoires de rois, de reines, de grands prêtres, d'héritiers. C'est parce qu'il faut que les gens qui sont plus ou moins maîtres de leur destin et qui vont vers une destinée sombre en général, n'aient personne au-dessus d'eux, si ce n'est éventuellement les dieux. Il faut que ce soit eux qui fassent les lois. Il faut que ce soit eux qui puissent décider, qui puissent avoir droit de vie et de mort, ou presque, puisque, et là je rejoins ce qui a été dit au sujet de la période médiévale, ou du moins de la période monarchique française, elle était loin d'être absolue de A à Z, tous les rois n'étaient pas Louis XIV, et même lui était obligé de composer avec, comme tu le disais Hugo, des traditions, des pouvoirs locaux, des parlements qui étaient d'ailleurs élus, alors pas au suffrage universel, mais ces types étaient quand même des représentants, votaient les lois, en discutaient, pouvaient contester le pouvoir royal. Enfin, c'était pas toujours... personne n'a jamais dirigé la France d'un claquement de doigts, à part peut-être un type qui n'était pas un roi et qui était un empereur. Mais sinon... Donc quand même si on s'inspire, je crois, précisément de l'histoire, ce que je conseille à tout le monde, parce que l'histoire a un talent fou et une richesse d'intrigues, enfin, dans la série des coups tordus dynastiques, on n'a rien inventé, on a 1000 ans de monarchie française, il n'y a qu'à piocher dedans, on les a tous. Hein. C'est la complexité qu'on peut prendre plaisir ou pas d'ailleurs dans la fantasy à mettre en scène, parce que je pense aussi qu'il peut y avoir... Bon, certes, moi, j'ai l'impression que tous mes condisciples ici, on a pris plaisir à décrire des univers un peu compliqués, avec des ambitions contraires, des destins. Mais on peut aussi avoir des choses beaucoup plus simples, avec un roi qui est juste là pour être le roi et incarner quelque chose. Et puis, à côté de ça, on raconte d'autres histoires qui peuvent être également fascinantes. Finalement, ce qui nous distingue peut-être, c'est qu'on essaye d'écrire une fantasy politique. Plus que épique ou héroïque.
Est-ce que je pensais, voilà, comme la question vous concerne un peu moins, Pierre Grimbert, je relance une bon, qui nous permet d'aller arriver à la deuxième partie. Hein, vous voyez comme c'est construit cette table ronde de ce titre héritier et rebelle. Donc ce sont aussi, donc, dans ce cadre de royaume, des histoires d'héritage, des histoires de transmission ou du refus de cette transmission, enfin voilà, des histoires de rébellion. Donc, Pierre Grimbert d'abord, l'apprentissage me semble avoir toujours été une donnée centrale dans votre œuvre. C'était déjà le cas dans La Malrune et dans J, hein, où on suivait des parcours d'apprentissage de magie. Et ici, dans Gondelore, les deux forces en présence, que sont Majronce et l'Enclave, sont, pour le dire vite, aussi des écoles de magie. Il est là aussi question de... C'est dans ce cadre-là, et plutôt que dans le cadre politique, qu'il est question de ce nécessaire renouvellement des générations. Donc, est-ce que c'est... est-ce que c'est ça qui est central dans l'histoire que vous avez envie de raconter, cette histoire d'apprentissage?
Bon, j'avais préparé une réponse pour la question d'avant, elle est couchée au pied des
pourvus. Non, mais vas-y, allez-y.
Je m'étais pas posé, pardon, la question de savoir quel modèle j'avais pu m'inspirer pour la représentation du pouvoir, moi, dans Gondelore, donc ce n'est pas tout à fait un royaume, il s'agit d'une confrérie, mais en y réfléchissant, en écoutant mes confrères qui ont dit beaucoup de choses intelligentes, je vais tenter mon coup.
Très bien.
J'ai l'impression que les règles qui régissent le pouvoir que j'ai mis en place sont un petit peu celles, en fait, du conseil d'administration d'une grande entreprise. Voilà, avec ses faillotages, ses ambitieux, etc. Bon, et ça m'a fait sourire d'y penser. Voilà.
Il y a des magistres,
voilà, il y a un petit peu
qui
en fait un peu le PDG, je me rends compte, mais qui peut sauter. Bon, enfin, voilà. Et donc, pour répondre à la deuxième question, effectivement, l'apprentissage, bon, est au cœur de Gondelore, puisqu'il s'agit de raconter le parcours de 4 adolescents dans une école, bon, qui n'est pas ce n'est pas Harry Potter, non. Voilà, parce qu'on est obligé de le préciser. Donc, d'une part, raconter le parcours de ces 4 adolescents, mais aussi, avec la même importance à mon sens, le combat déjà menées par leurs professeurs pour faire face à la menace, pour préparer justement ces apprentis dont ils ont absolument besoin pour assurer la sauvegarde du monde et aussi pour assurer la sauvegarde de la confrérie à cause justement des jeux de pouvoir qui peuvent l'anéantir au moment où on a le plus besoin d'elle. Donc oui, l'apprentissage en fait une partie indispensable. Et j'aime aussi beaucoup m'amuser donc, dans les jeux de pouvoir, de trahison, enfin d'ambition, etc., dont on a évoqué ici.
Et j'aime beaucoup la réflexion que vous avez sur la façon dont on apprend. Donc c'est, voilà, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous le bon professeur ? Parce qu'il y a plein d'images de professeurs dans vos œuvres.
Sans doute que je fais pour l'apprentissage en fait. Un bon professeur, c'est sans doute quelqu'un qui va être présent assez souvent, laisser parfois faire des erreurs pour apprendre à ne plus les commettre. Enfin, bon, c'est pas un manivelle non plus scolaire. Et évidemment, les professeurs ne sont jamais parfaits dans mes écrits aussi. Ça serait pas assez amusant.
Alors, Pierre Pemel, le titre, ça, c'est l'héritier, enfin le titre du 2, hein, c'est l'héritier, mais la question c'est un peu qui
est cet héritier ?
Qui est l'héritier ? Qui est l'héritier et de quoi ? Parce que l'héritage est largement malédiction dans le cycle tel qu'il se présente pour l'instant. On retrouve des artefacts magiques, mais à quelle fin et de quoi au juste va-t-on ou veut-on hériter ?
Oui, c'est c'est l'ambiguïté et la richesse de ce terme, l'héritier. En effet, ça peut être l'héritier d'un pouvoir politique, ça peut être l'héritier d'une tradition, ça peut être un héritier dynastique ou ça peut être l'héritier d'une malédiction. En effet, là, il se trouve que c'est un peu tout en même temps, du coup, ça tombait bien, donc c'est un super bon titre. J'étais très content de l'avoir trouvé. C'est aussi, je trouve, là du coup, pour en revenir au problème pourquoi des royaumes en particulier, c'est que ça permet également aussi cette thématique de la dynastie, du pouvoir hérité, qui trouve aujourd'hui des guerres correspondances que dans les polars, c'est le parrain aussi, hein, c'est la même histoire. Et d'ailleurs, c'est la plupart de ces romans, de ces romans en l'occurrence, mais et de ces films. De gangsters qui plaisent souvent beaucoup sont en fait des tragédies parce que les héros sont exactement dans la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont au-dessus des lois, qui ont pouvoir de vie et de mort. Et bon, je très rapidement une toute petite parenthèse, c'est dans Casino de Scorsese, c'est vraiment une tragédie mais classique dans sa forme presque la plus pure, jusqu'au point que je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le scénario, enfin si vous l'avez vu, il y a un moment, ça commence à tourner mal pour eux, alors qu'ils ont réussi à établir un système qui rapporte beaucoup d'argent. Et quand est-ce que ça tourne mal ? C'est quand ils commencent à envoyer un peu moins d'argent aux boss qui sont sur la côte est. Et ça s'appelle, quand est-ce que ça tourne mal ? C'est quand ils commencent à arrêter de sacrifier aux dieux. C'est vraiment une dimension tragique, divine, très forte. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut retrouver aussi dans la fantasy, grâce aux dynasties. On peut avoir des gens maudits, des gens qui n'ont pas envie d'hériter du pouvoir dont ils héritent, d'avoir des gens qui ont très envie d'hériter d'un pouvoir qu'il a priori leur est pas destiné. Et là, on arrive dans des complexités psychologiques et dans des richesses d'intrigues immenses, quoi. Parce que la quête du pouvoir, le goût du pouvoir, les nécessités, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut faire des choses odieuses pour un bien commun ? Est-ce qu'on ne cède pas finalement un jour ou l'autre à la tentation d'utiliser ce pouvoir à des fins purement personnelles, en se masquant la réalité ou pas ? Là, pour le coup, ce sont des thématiques qui me fascinent. Et je trouve que même si nos hommes politiques contemporains ne sont pas dénués d'ambition et de goût du pouvoir, je trouve que tout ça prend une dimension vraiment supérieure lorsqu'il y a soit une tradition, soit un pouvoir divin qui en plus fixe les règles d'un jeu qui peut n'amener qu'à la perte de ceux qui y jouent, quoi. Donc voilà.
Ce sont des questions qui se posent très directement dans le 117 roi, la question de la transmission du pouvoir, de ce fameux sang bleu qui coule dans certaines veines.
Effectivement. Dans le sang des C3, il y a la question de la transmission, mais ce n'est pas une transmission de père en fils. Elle se pose comme dans tout royaume, naturellement. Sauf que le vrai pouvoir et les vrais enjeux de cet univers-là, dans le sang des C3, est justement le fait qu'il y ait, on pourrait dire, un peu deux variations génétiques donc de l'espèce humaine. L'une avec le sang du sang bleu et qui a des attributs de force, de rapidité et qui leur donnerait finalement une prééminence donc sur l'autre variété de l'espèce humaine avec du sang rouge et qui elle est beaucoup plus nombreuse du simple fait que les hommes qui ont du sang bleu sont stériles. Et se joue toute une difficulté autour de ces questions-là. On ne sait pas bien d'où vient le sang bleu. Il va naître d'une manière un petit peu anarchique, imprévisible dans la population au sang rouge. Et on ne sait pas bien quoi en faire. Donc on va, effectivement, pour éviter de déstabiliser le pouvoir, d'avoir finalement une minorité surpuissante au sang bleu qui cherche à prendre le pouvoir, à détruire cette variété dans le peuple et à la cacher éventuellement dans la noblesse. Dans la noblesse de ces royaumes-là. Or, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, les gens en ont assez de se faire voir brûler leurs enfants, leurs proches, quand le sang va tourner, et ça va mettre en place, finalement, une rébellion hein, dont on parlait. Et la question, donc, de cette rébellion, moi, je la trouve intéressante hein, dans le cadre de 1973, parce qu'on nomme rebelles ceux qui s'opposent à un pouvoir en place. Et la question du pouvoir en place pose la question de la légitimité. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé comme ça? Qui sont ces gens qui sont en place? Est-ce que c'était simplement les plus brutaux à une période donnée qui se sont inventés donc une position de droit divin? Est-ce que ce sont des gens qui sont immuables? Donc effectivement, ces gens dont on pourrait éventuellement contester la légitimité vont qualifier de rebelles des gens qui veulent, pour le sang des C3, simplement sauver leur peau. Et les rebelles, de leur côté, ne cherchent pas à contester la légitimité du pouvoir, ils veulent seulement vivre.
Et ils se retrouvent à s'allier avec les sangs bleus les pires, puisque voilà, il y a une alliance des sangs bleus.
Mais à un moment donné, il y a un compromis qui va être trouvé, c'est-à-dire que le sang bleu noble caché va prendre le pouvoir. Va prendre le pouvoir, renverser le pouvoir en place pour reconstituer une espèce au sang bleu qui n'est qu'un fantasme. Parce que de toute façon, les hommes au sang bleu sont stériles. Donc,
c'est un problème de transmission et de stérilité.
Donc un potentiel, une impossibilité et un fantasme à un moment donné qui vient réitérer finalement, qui reproduit l'histoire. Qui reproduit l'histoire qui est le début donc, de cette ère-là, avec les guerres donc, d'un roi sanguinaire qui s'appelait Cradat, et qui a monté finalement, avait originellement conçu entièrement un système où le sang bleu dominait sur le sang rouge. Et effectivement, ça rend effectivement cet univers un petit peu complexe, hein, parce que ordinairement, les rebelles, la rébellion, ce sont des gens qui contestent la légitimité des pouvoirs en place. Et là, les cartes sont complètement brouillées, parce que finalement, les rebelles d'un jour vont devenir les alliés ou les subalternes du lendemain, et ceux qui étaient au pouvoir vont être renversés, malgré qu'ils soient finalement le terreau, le creuset à partir duquel on peut fabriquer cette race dominante.
Nabil, la voix de l'empereur commence par la présentation de ceux qui seront les trois héros qui gravitent autour du fragile prince Aelin. Et donc, ce sont d'emblée des personnages avec un passé très chargé. Enfin, voilà, ces trois scènes d'ouverture qui sont qui lancent vraiment le roman nous présentent ces personnages sous le prisme du passé dont ils vont avoir dont ils héritent et avec lequel ils vont devoir composer pour avancer.
Ce qui m'intéressait en fait dans le fait de décrire trois enfances qui ont été marquées par soit un trauma, soit une particularité du personnage en lui-même, qui se distinguait de son entourage, de sa famille, du reste du peuple en fait. C'était le fait en fait de présenter des personnages qui à un moment donné étaient en décalage complet avec l'univers et par ce décalage en fait pouvaient à un moment donné parvenir à le faire évoluer, à le faire bouger ou du moins à produire quelque action d'éclat qui à un moment donné allait avoir une certaine importance. Pour en revenir sur la question du déterminisme en fait, c'est ce qui m'intéresse sur ce genre de personnages, les personnages qu'on a envie de décaler un peu, qu'on a envie de rendre presque surréalistes. Enfin, voilà, il y a un personnage, Frima, c'est un super-héros dans un univers médiéval. Ce qui est intéressant, c'est ce genre de choses.
Super et héros du froid.
Voilà. Notamment pour la question du prince, qui est fragile, c'est un héritier. Qui n'est pas rebelle, parce que lui, il veut absolument être un bon empereur, il veut continuer, il veut sur les traces de son père, c'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour d'autres personnes. Mais ce qui est important, en fait, c'est que la différence, elle est là, en fait, je pense, entre les personnes et les personnages, c'est que les personnes, en fait, vous savez, enfin, Sartre disait, l'existence précède l'essence, dans le sens où, à aucun moment, on est capable, en fait, de déterminer profondément l'essence d'un individu avant qu'il soit ce qu'il deviendra. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire, avant la naissance de quelqu'un, bon, bah, il sera comme ça, ce sera telle personne, on ne peut rien en dire. Et c'est pour ça que l'existence précède l'essence. Et en fait, les personnages, c'est exactement le contraire, parce qu'on les a créés. Parce qu'on les a créés dans un certain but. Donc les personnages, enfin, leur essence précède leur existence. Et c'est encore plus vrai chez les héritiers qui ont un devoir avant même d'être nés. C'est-à-dire que la distinction qu'on peut faire entre des personnes et des personnages, d'une part, sur le fait que les personnages, on les a créés pour de certaines choses. On savait avant même qu'ils soient, qu'ils seront comme ça, parce qu'il y a un but scénaristique, voilà, enfin, ce genre de choses. C'est encore plus vrai pour les personnages qui ont des attentes, dont les héritiers. L'héritier qui, avant d'être né, est censé prendre les rênes d'un empire, ça en fait un personnage aux yeux des autres personnages, et c'est ça qui pour moi, était assez intéressant.
Ça va le haut, hein, cette table ronde. Je... C'est ça ? Non, je suis frappée. Alors, Hugo Bellagamba, Tancred est un personnage de rebelle, hein, clairement. C'est un personnage dont les choix personnels et la prise d'autonomie progressive par rapport aux choix du collectif, hein, fait tout l'intérêt du roman. Et puis, l'Uchronie peut aussi être pensée comme un refus de l'héritage historique, quoi, du déterminisme historique.
Oui. C'est une attaque. Ça doit être l'essence qui précède l'existence. Et la quintessence qui précède l'évadescence, cette table ronde étant pas tout à fait encore terminée. Mais... on a un philosophe de l'acuité à table, je trouve ça super. Enfin, je lui laisse la responsabilité, mais c'est super. Bon, moi, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout, parce que moi, justement, l'existence précède l'essence. Hein, oui. Puisque Tancred est un personnage historique qui a vraiment existé, donc même si je le manipule, évidemment. C'est un rebelle, oui. En fait, oui et non. C'est-à-dire que sa rébellion, elle n'est pas d'ordre matériel. Elle n'est même pas d'ordre politique, puisqu'en fait, lui, il navigue sur un chemin très égoïste, au fond, ce qui n'en fait pas forcément un personnage très sympathique, au moins au début de l'histoire. Il est dans un rapport lui-même à ce qu'il convient de faire en Terre Sainte, etc. Donc c'est un rebelle. Historiquement, on peut quand même voir une racine de sa rébellion, c'est que lorsque les croisés, si vous avez peut-être ça en tête, lorsque les croisés arrivent pour la première fois en Terre Sainte, en Anatolie, et qu'ils passent à Constantinople, et qu'Alexis Comnène leur demande de rendre hommage et de prêter serment de fidélité, pour que lui, après, ait un droit politique sur les terres qu'ils vont conquérir, Tancred refuse, c'est historique, et donc il ne se rend pas à la cour de Constantinople, et il ne se rend pas devant Alexis Comnène, il ne lui prête pas serment de fidélité, ce que fait au contraire Bohémond de Tarente, qui est son oncle, et avec lequel il a un rapport filial de, effectivement, d'héritage pour le comte, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il est dans sa famille, et il est censé lui obéir. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est un héritier et un rebelle, mais en fait ce serait faux de vous laisser croire que l'histoire de Tancred est celle d'une rébellion politique, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus un cheminement... presque spirituel d'une certaine manière, et ses modalités d'action, la manière dont il agit sur les événements connus puis nouveaux de la première croisade sont beaucoup plus suscités par le rapport qu'il a à la Terre Sainte et à la foi notamment que par rapport aux croisés et aux soucis de conquête territoriale, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, vous savez tous très bien, aussi bien que moi, que les croisades ne sont en rien une guerre de religion. C'est une volonté de féodalisation de la Terre Sainte pour des raisons économiques et politiques principalement. Et c'est ce qu'ont fait principalement les croisés en fondant les États latins d'Orient après avoir conquis Jérusalem. Et donc du coup, on s'inscrit sur quelque chose d'un petit peu différent. Mais par contre, il y a quelque chose qui rejoint ce que disait Régis et qui me tient à cœur de vous dire en deux mots. C'est qu'à travers ce bouquin, j'ai pu justement, et je pense que vous l'avez tous fait d'une certaine manière dans vos livres aussi, dépasser un peu ces espèces de dualités un peu simplistes que l'on croit trouver parfois dans l'histoire et qui sont très souvent que des apparences ou des interprétations un peu rapides. Tu parlais de sang bleu, de sang rouge, de noble, etc. Moi, quand je me suis penché sur la chronique anonyme de la première croisade et sur Amin Malouf et puis toutes les sources qu'on peut trouver à côté, Zoé Aldenburg, etc. Bon, c'est beaucoup de sources occidentales et chrétiennes, mais on trouve aussi beaucoup de sources arabes maintenant. On se rend compte qu'en réalité, la religion n'était pas l'élément déterminant et que bien des alliances au cours de la croisade ont été faites au mépris des repères religieux et au mépris des dogmes. Il y a par exemple des désalliances qui se font avec certains sultans pour des raisons de contrôle territorial. Il y a des trahisons qui se font, qui ne tiennent pas compte de la religion. Et ça montre bien que finalement, même quelque chose d'aussi comme ça, un petit peu image d'Épinal, c'est qu'elle le dit, hein, de la première croisade, libération de la Terre Sainte, etc. Eh bien, en réalité, derrière cette représentation repère, il y a une complexité que la science-fiction, que l'imaginaire peut un petit peu domestiquer et vous rendre, et vous donner surtout envie d'aller relire les textes, hein, d'aller relire les études et d'aller plus loin. Voilà.
Je pouvais poursuivre dans cette dans la voie que Hugo Bellagamba indique là. Qu'est-ce que vous voulez à votre tour transmettre à vos lecteurs? Est-ce qu'il y a sinon une leçon, du moins un message à tirer des représentations sociopolitiques données par vos textes, de la même manière que Hugo vient de nous dire qu'il invitait à relativiser une espèce de binarisme Orient-Occident dans sa relecture de la première croisade. Donc on repart dans l'autre sens, c'est parti.
Mince. je réfléchis très 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 vite, attendez. Voilà.
D'abord,
non, ouais. C'est gentil. Si j'ai voulu non mais je vais pas être lâche. Si j'ai voulu transmettre quelque chose, c'est bon, c'est un peu, ça fait un peu, mais bon, peut-être voilà, faut que j'assume mes responsabilités. C'est le fait en fait de c'est, je pense, les premières leçons que moi-même j'ai pu tirer de mes études de philosophie par exemple, à savoir d'une part prendre du recul. Surtout et n'importe quoi, la capacité à prendre du recul, je pense, c'est la capacité première pour apprendre à ne plus se tromper. Et en deuxième position, je l'avais sur le bout de la langue, le fait d'avoir de poser les réponses, savoir poser les bonnes questions. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions morales. Hein. C'est vrai qu'il y a certains dialogues qui sont inscrits dans le roman, qui sont des dialogues purement dans la tradition socratique, entre une personne qui ne sait pas grand-chose et une personne qui croit savoir des choses. Et ça rebondit entre les deux pour que la deuxième personne, en fin de compte, se rende compte qu'elle ne connaît pas grand-chose. Mais le but, pour moi, c'est vraiment de poser d'abord les questions qui ont été très, très mal posées dans une multitude de sujets, que ce soit par rapport à la sexualité, par rapport à la morale, par rapport à la foi, par rapport au droit. Et je pense que c'est juste, voilà, sans vouloir proposer des réponses, une certaine vision du monde, une certaine vision de la morale, de ce genre de choses que je peux avoir, peut-être juste prendre un peu plus de recul sur certaines de ces questions. Et je pense que la fantaisie, c'est agréable pour ça, parce que c'est un décor. C'est un décor qui rend l'enseignement, ou la transmission, et la réception plus douce.
Donc, je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, quand il parlait donc de fantaisie politique, en opposition à la fantaisie épique. Effectivement, le sang des sept rois, pour parler de ce livre, c'est pas un livre de didactique, c'est pas un livre qui a tendance à vouloir faire l'éducation morale des lecteurs. Hein, c'est pas voilà, c'est juste un livre de divertissement, hein, un livre populaire, hein, qui essaie d'être de la moins mauvaise qualité possible. Voilà. En revanche, à partir du moment où on met en place un univers politique, forcément on se positionne. Forcément on se positionne parce qu'on va faire des choix. On va faire des choix, on met des gens au pouvoir, on va distribuer le pouvoir aux uns et aux autres. Et forcément, comme nous-mêmes vivons dans
les bons et les mauvais rôles.
Les bons et les mauvais rôles qui peuvent évoluer, qui sont, parce que là encore, on sait bien que le mal et le bien n'existent pas, il n'y a que le pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans des situations où les points de vue peuvent changer.
Il y a des gens qui sont très bons au début, qui vont faire de mauvais choix, qui vont devenir très antipathiques, alors que d'autres, finalement, quand ils vont être très antipathiques au départ, et quand on comprend leur motivation, on va en comprendre peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, quand on place un monde politique dans lequel il va y avoir des systèmes de pouvoir et des enjeux, c'est forcément quelque part la transposition de notre propre vision, de celle que nous portons sur le monde dans lequel on vit. Je donnais juste un exemple, une anecdote qu'on ne peut pas imaginer, qui est transparente quand on lit le livre. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, il y avait un contexte politique dans lequel il y avait à la fois la parité en politique qui se posait et en même temps un espace politique qui était laissé pour les minorités étrangères dans les élections municipales. Et je trouvais très étrange que ça ne surprenne personne, hein, que finalement on ait une espèce de réserve pour les étrangers, de réserve de pouvoir, et en même temps une réserve pour les femmes, hein, qui ne sont pas a priori une minorité. La simultanéité de ces deux questionnements, qui étaient deux questionnements politiques fondamentaux, faisait un sens, hein, pour moi, avait une résonance qui ne semblait pas heurter finalement le regard à l'époque. Alors la transposition dans le livre, c'est que je me suis dit que finalement, j'allais écrire un livre dans lequel il y aurait zéro femme. Et c'était l'idée de se demander un petit peu, est-ce que ça va choquer les gens? Est-ce qu'ils vont se demander? Par exemple, il y a un vicomte, il a des enfants, il n'y a pas de vicomtesse. Il y a un roi, il n'y a pas de reine. À un moment donné, on va peut-être faire connaissance avec les nonnes bleues, je les tue avant qu'on les voie, donc elles n'ont pas de parole. Et ce qui est surprenant, c'est que ça devient un livre purement féodal dans lequel nous avons des représentations sociales dans lesquelles finalement les femmes sont absentes, ce qui ne correspond pas à la réalité de l'histoire. Hein. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes de pouvoir, il y a eu beaucoup de femmes qui jouaient des rôles politiques. Dans mon livre, au début, il n'y en a aucune. C'est l'idée du plafond de verre transposé dans finalement un roman de fantasy. Et au fur et à mesure que les tomes se mettent en place, j'introduis des rôles féminins, mais les rôles féminins ne prennent leur place que par des qualités individuelles. Les hommes sont là parce que ce sont des hommes, et les femmes s'imposent, alors ce sera Clarisse, Aléide, Rouault, des gens comme ça, qui vont finalement s'imposer par des qualités individuelles, des choix, par une réactivité en quelque sorte. Alors, naturellement, il ne s'agit pas de donner des leçons, il ne s'agit pas non plus d'en faire un livre qui va être didactique, mais je crois qu'à partir du moment où on pose un système politique, on va forcément raisonner d'une certaine manière par rapport à notre perception de ce que nous connaissons le mieux en termes de politique, c'est-à-dire l'époque que nous vivons, et que ce soit conscient dans ce cas-là ou que ça le soit moins, à un moment donné, ça va se faire le reflet de notre idéologie et de nos questionnements.
Pierre Pevel, pourrissement du pouvoir, conflit pour l'héritage.
Moi, ça commence mal, mais enfin pour le roi et pour le royaume. Mais les histoires qui commencent mal sont les plus intéressantes, quoi. Surtout quand ça s'empire. Au-delà de ça, je sais pas. Moi, forcément, il y a de moi dans le bouquin, mais mon matériau principal, moi, c'est plutôt l'être humain, l'âme humaine et sa veulerie naturelle. Donc, quand les personnes concernées sont roi, reine, prince, prélat, ça prend des dimensions immenses. Mais au-delà de ça, c'est plutôt le matériau humain qui m'intéresse. Paradoxalement, dans un genre qui est censé être celui de l'imaginaire à tout craint, moi j'ai l'impression et je suis à peu près convaincu que mes collègues diront la même chose. On en revient quand même toujours à ce matériau fondamental qui est l'humain, c'est ce qui nous constitue. La chose est particulière avec la fantasy, c'est qu'on peut confronter cette humanité à des réalités relativement inédites dans notre univers. Par exemple, bon, c'est pas le cas chez moi, mais dans un univers où on imagine que l'existence des dieux est avérée, évidente, absolue, tout d'un coup, s'intéresser sur l'humain et la perception donc du divin par ces personnages prend une dimension très très intéressante, puisque à moins, même dans notre monde, même en ayant la foi et à moins d'être vraiment un fanatique absolu, il y a quand même un problème. L'existence du divin est tout de même douteuse à un moment ou à un autre. Et même avoir la foi, c'est d'ailleurs Dans un monde où les dieux existent, il n'y a pas de question de savoir s'il y a des gens qui croient ou d'autres qui ne croient pas. On ne croit pas en la gravité. Si les dieux ils existent autant que la gravité dans un univers, on n'a plus le problème de se poser la foi. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas, le terme ne devrait même pas exister, en fait. Ce serait une évidence. La fantasy nous permet probablement de traiter des problèmes qui sont universels, qu'on retrouve dans tous les grands textes de l'humanité depuis ses origines, mais en les confrontant, oui, à des réalités différentes, qui finalement, vraiment, j'en reviens à ça, ne font que raconter des êtres humains, des personnages, des gens qui sont qui pourraient être nous, mais qui ont des responsabilités, des pouvoirs, des devoirs qui nous dépassent largement et dans des contextes pour le coup imaginaires. Mais moi, je pense que dans la bonne fantasy, c'est bien s'il y a des dragons, j'en mets partout. Hein, mais elle devient intéressante lorsqu'on s'interroge sur comment le gars qui est en face du dragon réagit. C'est ça, c'est à ça que je reviens toujours, quoi, l'humain. Qu'est-ce que le gars fait devant le dragon? C'est ça, et qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il voudrait faire? En général, il a peur, mais il peut y avoir des variantes.
Le mot de la fin pour Pierre Grimbert, qui est quand même vraiment, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui se passe dans son livre, face à des chimères, mais...
Merci à Pierre et à Régis, notamment, pour avoir abrégé mes souffrances, parce que j'aurais dit beaucoup de choses que vous avez citées, je suis tout à fait d'accord sur l'humain. Et c'est pareil, j'ai l'impression, avant la fantaisie, de travailler sur l'humain, comme Pierre.
En fait, sur la morale, ouais.
Voilà, ce qui nous m'intéresse, c'est d'étudier les réactions des gens, comme tu l'as très bien décrit, par rapport à des choses auxquelles nous ne sommes pas confrontés, et d'imaginer leurs réactions. Voilà. En particulier, dans Gondelore, et là c'était pour Régis, j'ai essayé d'éviter au maximum, enfin, de plus en plus au fil des tomes, de reprendre un schéma manichéiste qui était le mien et que j'ai assumé pendant plusieurs années, notamment sur la cycle de J. Là, j'essaie de briser ce schéma en explorant un peu plus loin le cerveau humain, en essayant justement d'arriver à ce que des personnes qu'on croit abominables, comme disait Régis, se révèlent finalement simplement des mauvais endroits au mauvais moment et avoir peut-être même agi de manière héroïque, même si le résultat est abominable, et l'inverse, enfin, de jouer un peu sur ces codes. Voilà.
Merci à tous et merci au public. Il faut qu'on laisse place à la grande Robin Hobb et que vous attendez maintenant.